France Culture.
Et tout de suite, on retrouve le journal de la rédaction. Bonjour Mathieu Laurent.
Bonjour Marie Sorbier, bonjour à toutes et tous. Au sommaire de ce journal, ce projet de reprise de l'usine Brandt d'Orléans avec engagement d'embaucher 150 des 350 salariés de ce site. Projet présenté il y a moins d'une heure par l'homme d'affaires Stéphane Français, patron de Thomson Computing. Rappelons que Brandt, qui compte 700 employés au total, est en liquidation judiciaire depuis le 11 décembre. Précision dans un instant de Valentin Grille. Également au sommaire, celles et ceux que la loi spéciale risque de favoriser jusqu'à l'adoption d'un nouveau budget avec Marie Viennot. Les interdictions de séjour formulées hier par l'administration Trump à l'encontre de 5 personnalités européennes engagées dans la régulation des plateformes de la tech, dont l'ancien commissaire européen Thierry Breton. Et enfin, Pierre Dubreuil, directeur général du domaine national de Chambord, sera l'invité de notre série Patrimoine au défi de la restauration. Le site de Brandt emploie la moitié des effectifs de ce fleuron français de l'électroménager, 350 salariés précisément à Saint-Jean-de-la-Ruelle, au sein de l'agglomération orléanaise. On imagine leur impatience quand leur est parvenu hier l'existence d'un plan de reprise pour leur usine. Eh bien, on en sait un peu plus en cette mi-journée. Bonjour Valentin Grille.
Bonjour Mathieu.
Il est bien question d'une reprise proposée par le patron de Thomson Computing, Stéphane Français, avec bien des inconnus.
Oui, ce qu'on sait pour sûr, c'est l'identité du repreneur potentiel. Vous l'avez dit, Thomson Computing et le nombre d'emplois qui pourraient être préservés, à savoir 150. Et il faut rappeler que la liquidation de Brandt avait laissé début décembre 700 salariés sur le carreau, dont la moitié sur le site de Saint-Jean-de-la-Ruelle, près d'Orléans. C'est là que seraient repris les 150 employés. Thomson, c'est un géant historique de l'informatique français qui avait d'ailleurs été fusionné avec Brandt entre 66 et 82. Après une disparition progressive, il est relancé en 2013 sur deux segments, des PC bas de gamme et des marchés publics, avec un argument politique notamment. Ces PC sont conçus en Seine-et-Marne, même s'ils sont ensuite fabriqués en Asie. Mais la marque est à la peine. Après une période fructueuse pendant la pandémie, son chiffre d'affaires s'est écroulé et revient progressivement à ses plus hauts de 2021. Mais elle reste peu rentable, 4 millions d'euros de pertes l'année dernière. Et surtout, elle n'emploie que 25 personnes. Cette reprise serait donc un passage à l'échelle industrielle et un véritable pari. Les salariés d'Orléans continueraient à produire de l'électroménager dans un premier temps, avant de se diversifier vers l'électronique. Le ministre de l'Industrie, Sébastien Martin, a appelé à l'évaluation rigoureuse de la solidité de ce projet. Il a aussi rappelé qu'un nouvel appel d'offres se tiendrait en janvier.
Merci Valentin Gris. Hypothèse haute, ce plan de reprise est acté. Eh bien, il va falloir dans l'urgence débloquer des fonds et les collectivités locales orléanaises pourront, grâce à la loi spéciale votée hier par l'Assemblée nationale et le Sénat, faire le nécessaire. C'est l'une des trois capacités, si l'on peut dire, de cette loi spéciale en attendant un budget. Ce matin, nous avons évoqué les perdants et les manques de ce texte. Ce midi, nous abordons celles et ceux qui devraient en tirer bénéfice. Bonjour Marie Viennot.
Bonjour.
Qui gagne, Marie ?
Alors, la Constitution interdit que des mesures fiscales défavorables aux contribuables soient rétroactives. Si un vrai budget était voté début 2026, il ne pourrait pas reprendre tout un tas de niches fiscales que le gouvernement avait proposé d'annuler. Parmi ces niches, il y a celle qui permet aux retraités de réduire 10% de leur pension de leur revenu imposable. Cet abattement est plafonné, mais peut aller jusqu'à 4 400 euros par foyer fiscal. Le gouvernement avait prévu de le remplacer pour que les moins riches des retraités n'y perdent pas trop. Exit donc cette velléité de réforme qui devait apporter 1,2 milliard d'euros dans les caisses de l'État. Le gouvernement souhaitait aussi que les indemnités reçues par les malades qui ont une affection de longue durée, cancer, VIH, sclérose en plaques, etc., soient soumises à l'impôt sur le revenu. Cela ne sera donc pas le cas et il en espérait, le gouvernement, 900 millions d'euros. Les parents devaient également perdre la déduction fiscale dont ils bénéficient pour chaque enfant scolarisé dans le secondaire et ça ne sera pas le cas. Alors tous ces gagnants sont en fait des non-perdants. Ils auraient pu avoir à payer plus d'impôts et en fait cela restera comme avant. Plus ambigu est la situation pour les plus hauts revenus et les entreprises qui réalisent plus d'un milliard de chiffre d'affaires. Le gouvernement veut encore les mettre à contribution. L'an dernier ce fut possible alors que le vrai budget a été voté en février. La règle de non-rétroactivité fiscale ne s'était donc pas appliquée. Cela peut-il encore être le cas cette année? En tout cas, dans le cas contraire, faire. Une chose est sûre, le déficit public ne pourra pas être inférieur à 5% du PIB, car ces deux impôts représentent plusieurs milliards d'euros de rentrée fiscale.
Merci Marie Viennot. Le géant pharmaceutique français Sanofi annonce avoir signé un accord pour acquérir l'entreprise américaine Dynavax, qui commercialise notamment un vaccin contre l'hépatite B pour adultes. Sanofi va racheter toutes les actions de cette société cotée aux États-Unis et valorisée à hauteur de 1,86 milliard d'euros.
Le combat de l'Union européenne pour la régulation des plateformes de la tech vaut à cinq figures de cette lutte d'être interdite de séjour aux États-Unis.
Figures de cette lutte parmi lesquelles celle de l'ancien commissaire européen Thierry Breton, co-auteur de la loi DSA, législation européenne sur les services numériques, qui impose aux plateformes des régulations comme le signalement de contenus problématiques. Ce que les États-Unis considère comme une atteinte à la liberté d'expression. Enfin, les mots du secrétaire d'État américain Marco Rubio vont plus loin. Il parle, je cite, d'idéologues européens, de militants radicaux. Et oui, Thierry Breton n'est pas le seul à croiser le fer. Bien d'autres activistes sont menacés par les services américains. Bonjour Marie-Marty Rossian.
Bonjour Mathieu.
Marie, Thierry Breton est aux yeux de l'administration une cible de choix et depuis des années.
Et pour cause, cet ancien commissaire européen est l'artisan du DSA, le Digital Services Act, texte voté à 90% par le Parlement européen, a-t-il rappelé, et qui impose des régulations en ligne aux plateformes de la tech, comme par exemple le signalement obligatoire de contenus problématiques, un ensemble de règles que les États-Unis, vous l'avez dit, considèrent comme une atteinte à la liberté d'expression. Thierry Breton, lui, a régulièrement défendu ce texte, comme ici en août 2023, au moment justement de son entrée en vigueur.
J'entends certains dire ça va être la fin de la liberté. Au contraire, c'est beaucoup plus de liberté, c'est la garantie de liberté. C'est tout sauf le ministère de la censure.
Un texte qui n'a pas du tout plu au milliardaire Elon Musk, propriétaire du réseau social X, qui a régulièrement échangé des pics avec Thierry Breton à coups de publications interposées sur les réseaux sociaux. Exemple, il y a un an, tout juste nommé dans le gouvernement de Donald Trump, Elon Musk relaie sur ses réseaux le clip d'une activiste de l'AFD, parti d'extrême droite allemand, auquel il annonce ensuite son soutien à un mois des élections législatives allemandes. C'est de l'ingérence étrangère, fustige alors sur X Thierry Breton, s'attirant les foudres du milliardaire, mais l'ancien commissaire européen maintient sa position.
Il a le droit de dire ce qu'il veut, il a le droit de dire absolument ce qu'il veut, mais s'il utilise comme moyen d'expression un réseau qui lui-même est désormais régulé pour protéger nos enfants, nos concitoyens, nos démocraties en Europe, il doit juste respecter précisément ce droit.
Il y a deux semaines, le réseau social X a écopé d'une amende de 120 millions d'euros justement pour ne pas avoir respecté ses règles européennes. Washington avait alors menacé l'Union européenne de représailles. C'est un vent de macartisme qui souffle sur les États-Unis, résume donc ce matin Thierry Breton.
Merci à vous Marie-Marty Rossian. Les autres personnalités sanctionnées sont des militants et chercheurs engagés dans le combat pour la régulation des plateformes. Parmi eux, le Britannique Imran Ahmed, qui dirige une ONG contre la haine en ligne, qui a été dans le viseur d'Elon Musk. Ne pas se méprendre, ces flèches américaines décochées au nom de la liberté d'expression à l'encontre de personnalités et d'institutions ne sont autres qu'une plus vaste entreprise de déstabilisation, de fragilisation de la démocratie. Jeanne Serrin a sollicité Sandro Gozzi, député européen, membre du groupe Renew Europe et secrétaire général du Parti démocrate européen. Et à ses yeux, ce n'est plus qu'un incident diplomatique.
C'est un acte hostile car il vise à nous toucher dans le cœur de notre souveraineté qui est avant tout la possibilité de décider les règles, les lois, la législation que nous voulons appliquer dans notre espace démocratique. Et c'est de la vengeance. C'est une politique d'intimidation. On en frappe 5, mais on en avertit 500. Et donc, il est clair que c'est un message aussi qui vise à menacer tous ceux qui travaillent en ce moment pour assurer la mise en œuvre de cette législation numérique. C'est quelque chose qui ne peut pas être accepté dans les relations entre pays alliés.
Vous parlez de vengeance. Est-ce selon vous un acte de représailles à l'encontre de l'enquête que mène en ce moment la Commission européenne sur X ? La Commission a infligé début décembre une amende de 120 millions d'euros à la plateforme d'Elon Musk, accusée d'avoir enfreint plusieurs règles de la loi européenne sur les services numériques.
Oui, c'est une réaction à notre fermeté. Il y a 10 enquêtes en cours, 3 concernent des entreprises américaines, 3 concernent des entreprises chinoises, 3 concernent des entreprises européennes, 1 canadienne. Donc, vous voyez, même les motivations, les justifications qui accompagnent ces mesures sont totalement infondées. Ces provocations visent à nous faire peur, visent à nous faire reculer. Et la meilleure réponse de l'Union européenne, c'est de continuer à appliquer nos règles. Nous devons être très fermes, évidemment, dans la défense de Thierry Breton et des autres personnalités frappées, mais surtout dans la défense de nos choix souverains et démocratiques.
Sandro Gozzi, député européen, le chef de l'État français Emmanuel Macron vient de déplorer, je cite, une mesure de coercition à l'encontre de la souveraineté européenne.
L'actualité internationale marquée une fois de plus par la guerre en Ukraine.
Pas un jour ou presque en cette fin d'année sans une attaque russe sur les structures énergétiques ukrainiennes ciblées la nuit dernière. Des infrastructures pétrolières et gazières provoquant l'arrêt des équipements, informations communiquées par les services de l'entreprise publique Naftogaz. Il faut et il faudra reconstruire. Ces efforts de reconstruction font justement partie de la dernière version du plan de paix porté par les États-Unis, négocié entre des représentants de Kiev et de Washington, envoyé à Moscou pour avis et dévoilé ce matin par le président ukrainien. Un plan dont les points les plus épineux restent faire la paix et tomber d'accord sur les enjeux territoriaux. Emmanuel Chaz nous appelle de Kiev.
Ce document est salué par Volodymyr Zelensky comme un progrès significatif vers la paix. Ce matin, le président ukrainien a évoqué la possibilité d'une zone démilitarisée à l'est du pays, à condition que Kiev maintienne sa présence le long de la ligne de front actuelle. Selon le projet d'accord, l'Ukraine bénéficierait d'un cessez-le-feu immédiat et de garanties de sécurité offertes par les États-Unis et les Européens sous forme de réponses militaires jointes et de sanctions en cas de nouvelle agression russe, sur terre, sur mer ou dans les airs, à condition de ne pas attaquer elle-même la Russie, de limiter son armée à 800 000 hommes et de ne pas redevenir une puissance nucléaire. Ce document devrait être présenté aujourd'hui même à Moscou par les États-Unis, avec une inconnue de taille. La Russie réclame toujours la cession de l'ensemble du Donbass et Vladimir Poutine avait prévenu lors de sa conférence de presse annuelle qu'il obtiendrait militairement ce qu'il ne pourrait obtenir diplomatiquement.
Emmanuel Chaz, correspondante de RFI à Kiev.
Le Parlement algérien se prononce aujourd'hui sur une proposition de loi qui témoigne de l'enracinement de la crise entre Paris et Alger.
Un texte qui qualifie la colonisation française 1830-1962 de crime d'État et qui réclame à la France des excuses officielles. Rappelons que la conquête de l'Algérie était marquée par des tueries massives, la destruction de ses structures socio-économiques ainsi que par des déportations à grande échelle. Moyennant quoi, Christian Chesneau, cette loi examinée aujourd'hui aurait une forte portée symbolique, mais son effet concret sur des demandes de compensation semble limité.
Cette initiative du Parlement algérien, avant tout symbolique, est un nouveau signe du climat orageux entre les deux pays. Elle montre que la libération de l'écrivain Boualem Sansal n'aura été qu'une brève éclaircie. Le texte demande à la France une indemnisation complète et équitable pour tous les dommages matériels et moraux engendrés par la colonisation française. Les députés algériens exigent la décontamination des sites des essais nucléaires effectués par Paris dans les années 60 dans le Sahara. Ils réclament également le retour des archives couvrant la période de la colonisation qui ont été rapatriées en France au moment de l'indépendance de l'Algérie en 1962. Il s'agit d'un acte souverain par excellence, estime le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bougali, qui ajoute « C'est un message clair selon lequel la mémoire nationale algérienne n'est ni effaçable ni négociable. » À Paris, le porte-parole du Quai d'Orsay indique ne pas vouloir faire de commentaires s'agissant de débats politiques qui se passent dans les pays étrangers, une façon de ne pas mettre de l'huile sur le feu, notamment parce que le journaliste Christophe Glaise est toujours détenu en Algérie.
Christian Chesneau, inflation de candidatures à l'élection présidentielle au Pérou. 34 partis politiques en lice pour ce scrutin programmé au 12 avril. Le Pérou, pays d'Amérique latine en crise depuis 2016, fait face à une vague de violence liée au crime organisé. De multiples bandes extorquent et assassinent ceux qui résistent au chantage, ce qui a déclenché des manifestations massives, notamment dans la jeunesse et des secteurs les plus touchés du commerce et des transporteurs routiers. Selon un rapport d'un réseau mondial de surveillance des récifs coralliens, la couverture en coraux durs dans les Caraïbes a diminué de 48% entre 1980 et 2024. Les coraux souffrent de stress thermique en raison du changement climatique et donc de la surchauffe et de l'acidification des mers provoquées par les émissions de gaz à effet de serre.
Venons-en aux invités du journal de 12h30 toute cette semaine sur le thème du patrimoine au défi de la restauration.
Focus aujourd'hui sur un joyau du patrimoine français qui regroupe à lui seul de nombreux enjeux, le château de Chambord, un château classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le deuxième le plus fréquenté de France avec 1,2 million de visiteurs chaque année. Un site aussi usé par le temps, 500 ans d'histoire, frappé par le changement climatique, il se dégrade à l'image de l'aile François Ier fermée au public et pour laquelle un appel aux dons et au financement public ont été lancés. Beaucoup de défis que doit relever Pierre Dubreuil, directeur général du domaine national de Chambord. Faouzi Trita, vous l'avez joint par téléphone.
Bonjour Pierre Dubreuil.
Bonjour.
Vous venez d'être reconduit à la tête du domaine national de Chambord. Aujourd'hui, le moins que l'on puisse dire, c'est que vous avez énormément de pain sur la planche.
Il y a tellement de choses à faire. Vous savez, à Chambord, il y a d'abord beaucoup de choses à organiser, de travaux à lancer. Et puis, il y a ce chantier un peu pharaonique qui va marquer les années, voire les décennies qui viennent, celui de l'aile François Ier.
L'aile François Ier qui menace donc de s'écrouler. 37 millions d'euros de travaux sont nécessaires donc pour la restauration et aussi la modernisation. Depuis que vous avez lancé cet appel aux dons, on en est où ?
Alors, il y a deux choses différentes. C'est-à-dire qu'il y a d'abord les crédits publics, que je le rappelle, le château de Chambord est propriété de l'État. Et donc, l'État, le ministère de la Culture nous soutient, mais dans un contexte budgétaire qui est assez tendu, comme chacun le sait, j'ai demandé un appui supplémentaire au Parlement et les parlementaires, le Sénat et l'Assemblée nationale, dans leur immense majorité, ont voté un amendement qui dépend du vote final du budget, mais qui prévoit deux choses. La première, c'est d'abonder de 6 millions le budget d'investissement de Chambord pour l'aile François Ier, et ensuite de défiscaliser à hauteur de 75%, c'est-à-dire comme Notre-Dame à l'époque, pour les donateurs avec un plafond de 1 000 euros. Donc ça, c'est un dispositif qui va permettre de lancer les travaux de sauvegarde qui s'élèvent à 12 millions, sachant que le domaine de Chambord, qui est autofinancé en fonctionnement et qui dégage du résultat par ses bonnes performances économiques et parce qu'il y a beaucoup de visiteurs, va pouvoir mettre une partie sur la table pour pouvoir lancer cette restauration quelques millions. Ensuite, il reste 25 millions à trouver. Et là, c'est très difficile. Donc, je m'active à chercher des grands mécènes. Et puis, il y a aussi cette souscription nationale qui est en fait un appel aux dons. Et nous avons recueilli à ce jour 400 000 euros pour environ 4 000 donateurs. Et ça, c'est formidable.
Pierre Dubreuil, est-ce que vous avez eu l'impression, en arrivant à la tête du domaine national de Chambord, que vous avez hérité de pas mal de problèmes du passé ?
C'est le lot de tous les directeurs d'établissements publics et de dépositaires du patrimoine. Vous savez, Chambord est un établissement public depuis 20 ans. Et depuis 20 ans, énormément de choses ont été faites. Chacun fait ce qu'il peut, je veux dire, avec ce patrimoine qui, de toute façon, a besoin d'entretien et de restauration. Certains que l'aile François Ier, ça fait quelques années que ça ne va pas bien, puisqu'il y a des visiteurs qui étaient passés à travers le plancher il y a quelques années. Et là, il faut s'y attaquer.
Vous parliez de travaux prévus sur 10 ans. Évidemment, dans la philosophie de ces travaux, il y a un élément très important dans le domaine national de Chambord, c'est l'environnement. On ne peut pas restaurer aujourd'hui comme on le faisait il y a 500 ans, c'est une évidence.
Vous avez raison de préciser que les deux sont liés. En fait, en réalité, on ne peut pas distinguer à Chambord la forêt du château. On doit pouvoir faire en sorte que ces patrimoines soient transmis aux générations futures. C'est mon obsession.
En s'adaptant au changement climatique.
C'est une nécessité pour tout le monde, pour le château d'ailleurs comme pour la forêt, parce que l'un des problèmes de l'aile François Ier, c'est précisément la pression des effets du changement climatique sur l'eau, notamment avec les épisodes de sécheresse qui se sont succédés et des inondations qui ont contribué à faire s'écarter les murs et pousser sur la base du château et ses fondations.
Pierre Dubreuil, on vous sent très actif pour chercher des solutions de financement, des solutions aussi auprès des politiques. Quand on est au domaine national de Chambord et peut-être un peu plus éloigné de la capitale où l'on parle davantage du Louvre, du centre Pompidou, est-ce que vous, dans votre métier, c'est quelque chose qui est plus difficile ?
Oui, c'est une vraie difficulté. Moi, j'ai dirigé des institutions parisiennes, nationales installées à Paris, c'est beaucoup plus simple de sensibiliser quand on est à Paris, et Chambord est à 2 heures de Paris. C'est le deuxième château plus visité en France après Versailles, donc on n'a pas de problème de notoriété. En revanche, on a un problème pour attirer des mécènes, quand je parle de très grands mécènes institutionnels, qui sont plus sensibles souvent aux musées d'art, aux grands monuments parisiens, surtout quand ils ont brûlé, comme Notre-Dame, c'est normal. Mais moi, j'essaie d'attirer leur attention sur le fait qu'il ne faut pas attendre que ça brûle pour sauver, et pas attendre que ça s'effondre pour agir et pour mécéner. Voilà, il y a beaucoup d'argent en France. Il y a des investisseurs institutionnels. Je vous avoue que c'est sans doute un peu plus difficile de les faire venir à Chambord. Donc, je pense que les grandes fortunes et notamment les grandes entreprises devraient être plus sensibles au patrimoine qui se trouve en dehors de Paris, surtout quand il est exceptionnel.
Merci beaucoup, Pierre Dubreuil, d'avoir été l'invité du 12-30. Je rappelle que vous êtes directeur général du domaine national de Chambord. Merci beaucoup.
Merci, Fawzi Trita et Aloïs Guérin, pour la préparation. Demain, nous aurons pour invité Philippe Just, le président de l'établissement public. On vient d'en parler. Rebâtir Notre-Dame de Paris, maître d'ouvrage du champ. Quelques mots de la météo de l'après-midi pour refermer cette édition. Temps froid, plutôt nuageux. Ambiance refroidie par un vent de nord-est sensible, de la neige en plaine en Ardèche et dans la Drôme. Températures maximales qui vont de 6 à 9 degrés de la Bretagne aux Pyrénées, de 10 à 15 sur le pourtour méditerranéen. Partout ailleurs, elles plafonnent entre 1 et 5 degrés. Ce journal a été préparé avec Alix Forgeau, à la technique Paul Guigues. Prochaines informations ce soir à 18h. Elles vous seront présentées par Camille Marigaud.